Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Canal Académie. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Alain Cata, qui est directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des Affaires étrangères et qui est aussi ministre plénipotentiaire hors classe. Monsieur Alain Cata, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Madame, bonjour. Permettez-moi de vous saluer, de vous remercier de m'avoir convié à cette interview, de saluer aussi tous vos auditeurs. Je m'en réjouis d'autant plus qu'ils sont probablement, je l'espère en tout cas, nombreux à nous écouter. Je suis à votre disposition.
Eh bien, Monsieur Cata, je souhaite d'abord vous présenter à nos auditeurs. Certains vous connaissent puisque Canal Académie est écouté beaucoup par les Français expatriés à l'étranger. Et donc, vous êtes un diplomate de carrière, puisque après l'École nationale d'administration, vous avez rejoint le Quai d'Orsay. Vous avez été en poste successivement à Mexico, à Pékin, à Kuala Lumpur, avant de rejoindre à nouveau donc, l'administration centrale du Quai d'Orsay, où vous avez été notamment directeur général adjoint des relations culturelles, scientifiques et techniques. Ensuite, vous avez été nommé consul général à Barcelone, puis dans un retour à l'administration centrale, directeur d'Amérique, directeur général de l'administration, ce qui est un poste tout à fait éminent au Quai d'Orsay. Vous êtes revenu ensuite sur le terrain, si l'on peut dire, en étant nommé ambassadeur à Vienne de 2001 à 2004. Et depuis septembre 2007, donc, vous êtes directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Donc je souhaiterais aujourd'hui que vous nous parliez des missions de votre direction, notamment en ce qui concerne les Français à l'étranger, fonction qui est au fond assez méconnue et que nous évoquions ensemble l'activité consulaire et le rôle des consuls. Donc, ma première question portera sur quelles sont les missions de votre direction, notamment pour les Français à l'étranger. Pouvez-vous nous éclairer ? Il y a, je crois, parmi ces missions, la sécurité des Français, qui est particulièrement importante en temps de crise, mais également en temps normal. D'autres missions concernent l'enseignement, la culture. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout d'abord, pour vous dire que notre communauté française à l'étranger croît, elle est importante. On l'estime aujourd'hui à 2 300 000 personnes. Un peu plus d'1 300 000 personnes sont effectivement inscrites sur nos registres consulaires, dans nos postes consulaires. Le reste procède d'estimation. Cela dit, ce qui caractérise notre communauté, ce n'est pas forcément qu'elle soit la plus nombreuse parmi les grandes communautés occidentales qui vivent hors métropole. C'est surtout le fait que nous avons un réseau consulaire très important. Nous avons 232 postes consulaires. Nous avons également à peu près pas loin de 600 agences consulaires. Et nous arrivons au deuxième rang mondial, par importance, des réseaux consulaires dans le monde, juste derrière les États-Unis. Avant l'Angleterre, avant l'Allemagne, avant l'Italie. L'Italie, pour ne prendre qu'elle, et bien évidemment la Grande-Bretagne également, ayant beaucoup plus d'expatriés que nous-mêmes. Alors vous voyez bien que ce qui caractérise d'entrée de jeu notre communauté, c'est qu'au fond, elle est très encadrée dans le bon sens du terme. Les missions de l'État de protection envers ses ressortissants à l'étranger sont très anciennes. Elles n'ont cessé de développer, de s'amplifier, de se diversifier. Et ceci me permet, en effet, comme vous l'avez vous-même d'entrée de jeu souligné, de vous dire très cursivement ce que sont nos principales missions. La première, vous avez raison, vous l'avez dit vous-même, c'est la sécurité. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux. Il y a malheureusement beaucoup d'États qui sont dans des situations instables. Il y a aussi des situations qui ne sont pas le fait de l'homme, mais qui sont des situations de dangerosité. Je songe aux tremblements de terre, aux inondations catastrophiques, aux typhons, etc., où il nous faut agir vite pour secourir nos compatriotes à l'étranger. que ceux-ci d'ailleurs soient établis durablement dans un pays ou qu'ils ne soient seulement que de passage. Donc ça, c'est vraiment la première mission, c'est la plus fondamentale. Quand vous êtes à l'étranger et que vous avez un problème, vous attendez d'un poste consulaire ou diplomatique qu'il soit à vos côtés, qu'il vous aide, qu'il vous renseigne et le cas échéant, qu'il vous rapatrie. La deuxième priorité, c'est au fond l'administration. Au jour le jour de ces communautés, un Français à l'étranger, eh bien, il aime et il est en droit de recevoir des services de la part de l'État qui s'apparentent tout à fait à ceux d'une mairie. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez dans une mairie? La première chose, vous y déclarez vos enfants. Quand ils naissent, on commence par un acte de naissance. Et puis, on grandit et on finit par se marier. Donc, il y a forcément un acte de mariage, le cas échéant. Malheureusement aussi, on y meurt. Donc, c'est aussi au réseau consulaire que revient la responsabilité des actes de décès. Toute cette partie très importante de la gestion des actes d'état civil étant non seulement de la responsabilité de nos postes à l'étranger, mais également centralisée à Nantes. Vous savez que Nantes, c'est la plus grande préfecture de France en ce qui concerne le nombre d'actes gérés par une entité, à savoir ici le ministère des Affaires étrangères. Nous avons 12 millions d'actes qui sont stockés à Nantes et qui sont des actes vivants. La troisième grande mission, c'est également de permettre aux Français de l'étranger de s'expatrier durablement et pour ceci de disposer d'un réseau scolaire aussi maillé que possible, aussi efficace que possible, aussi proche que possible du réseau français d'enseignement. Alors, je ne suis pas évidemment le seul à m'en occuper, il s'en faut beaucoup, mais c'est ma direction qui permet aux Français de bénéficier de bourses pour leurs enfants, voire, depuis que le président Sarkozy a été élu, de bénéficier, je songe à la première étape de cette importante réforme, de la gratuité de notre système scolaire pour les lycées français à l'étranger. Donc vous voyez une palette très diversifiée de responsabilités, mais qui permettent à nos communautés, au fond, de se sentir aussi à l'aise que possible dans le choix qu'elles ont fait de vivre ailleurs.
Oui, votre réseau a également un rôle, je crois, au moment de l'organisation des élections. Qu'en a-t-il été lors de la dernière élection présidentielle de 2007 ?
C'est exact. Nous participons à l'organisation de deux scrutins nationaux, les référendums et les présidentielles. Alors, les dernières présidentielles ont évidemment attiré beaucoup de monde dans nos postes consulaires, dans nos bureaux de vote. On peut estimer, si vous voulez, que sur 1 300 000 personnes inscrites, nous avons eu à peu près entre 40 et 50% de votants, ce qui, pour une consultation à l'étranger, est important. Mais il y a aussi, outre les présidentielles et les référendums, une troisième consultation qui est moins connue de vos auditeurs, mais qui est très importante pour les Français de l'étranger, c'est l'élection à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette assemblée comprend 155 membres et désigne tous les 6 ans 12 sénateurs qui représentent au Parlement les Français établis à l'étranger.
Je vous remercie. Ma seconde question, c'est le métier de consul. C'est un métier, je crois, ancien, qui date des croisades ou peut-être même de l'Antiquité, au fond. Comment ce métier évolue-t-il? Quel est le rôle d'un consul sur le terrain? Vous l'avez un peu décrit. Mais peut-on revenir sur qui sont ces consuls? Et quelle est la qualité d'un bon consul?
Oui, c'est une question qui me laisse un peu perplexe, tellement elle appelle de réponses diverses. Vous avez raison, on peut y répondre de façon historique. Un consul, c'est d'abord quelqu'un qui, historiquement, a protégé les marchands, notamment dans les différents points d'escale de nos marins. Et puis, progressivement, les missions des consuls se sont étendues à l'ensemble de ce qu'on appelle la protection consulaire. Vous savez qu'il y a un texte à cet égard qui est un texte fondateur, qui est la Convention de Vienne de 1963, qui très attentivement dispose les différentes missions consulaires. Alors la première, c'est celle de la protection en général. Un consul est là pour assurer la protection auprès des autorités du pays hôte des ressortissants dont il a la charge. Il doit veiller bien évidemment à leur sécurité, il doit permettre leur administration. Tout ceci fait partie des missions traditionnelles que j'évoquais tout à l'heure. Il y en a une deuxième mission qui est beaucoup plus neuve, qui est celle de l'influence que doit avoir un consul dans le cadre des missions diplomatiques, que son ambassadeur, car il relève toujours d'un ambassadeur, les circonscriptions consulaires sont rattachées.
Oui, à ce sujet, je voulais vous demander quel est le rôle respectif, au fond, des ambassades, des ambassadeurs et des consuls. Alors, comment ça s'articule sur le terrain ?
Alors, de deux choses l'une, si vous voulez, ou bien le consul est présent dans une capitale, ou bien il est présent hors d'une capitale. Dans le premier cas, son rôle est essentiellement administratif. Il est essentiellement consulaire au sens traditionnel du terme. On ne voit d'ailleurs pas qu'il en soit autrement. L'ambassadeur est le représentant de chacun des membres du gouvernement. Il est le représentant du chef de l'État. C'est à lui qu'incombe la représentation politique, l'animation de l'ensemble des réseaux de son ambassade, la négociation, le cas échéant, des accords avec son pays hôte. C'est lui qui accueille les ministres français ou le chef de l'État quand ils sont de passage dans sa capitale, qui accompagne les ministres étrangers à Paris. Bref, le rôle politique, il est là. En revanche, quand vous êtes, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de pays d'Europe, je songe à l'Allemagne, je songe à l'Italie, je songe à l'Espagne, quand vous êtes dans des pays qui ont un réseau consulaire maillé, avec des postes consulaires très importants, éloignés de la capitale, il est clair que le consul n'a pas seulement un rôle de protection consulaire au sens classique du terme, il a un rôle d'influence économique et il a un rôle, j'allais dire, de surveillance et de recueil de l'information, de surveillance économique. Il importe beaucoup que grâce à eux, nous puissions savoir comment évoluent les sociétés des pays où nous sommes représentés, où sont nos intérêts, comment gérer ces intérêts, qu'ils soient culturels ou économiques. Je vous prends un exemple simple. En Chine, nous avons bien évidemment une ambassade à Pékin, mais notre ambassadeur à Pékin ne peut pas être partout. C'est un pays immense. Même chose pour la Russie. Donc, nos consuls à Canton, à Wuhan, à Chengdu, à Shenyang, à Shanghai jouent un rôle irremplaçable en matière d'influence culturelle et économique. Même chose pour la Russie, c'est évident. Plus un territoire est grand, plus les consuls qui y sont établis doivent jouer ce rôle, ce qui me permet de répondre à votre question. Qui sont-ils ? Ce sont des diplomates. Moi-même, vous l'avez rappelé, lorsque j'étais à Barcelone, j'ai été consul général, et bien notre ambassadeur à Madrid me faisait confiance pour épauler, accompagner nos intérêts économiques et culturels dans ma circonscription.
Qu'en est-il de l'évolution de la carte des consulats ? Cette carte évolue, je crois, sans cesse, avec des disparitions de certains consulats, mais surtout des créations, notamment dans les pays émergents. Combien y a-t-il de consulats aujourd'hui ? Quels sont les nouveaux pays où, par exemple, cette année, en 2008, vous comptez ouvrir des consulats ?
Très bonne question. C'est un réseau vivant que le réseau consulaire français. Il doit accompagner les mouvements de notre communauté à l'étranger et donc il n'a rien de figé. Nous avons 232 postes consulaires, sections consulaires, chancelleries détachées. Nous avons tout un jargon pour définir en quelque sorte les différents modules, si vous voulez, du Lego consulaire. Il faut retenir que c'est encore une fois, après les États-Unis, le réseau le plus maillé, le plus dense qui soit parmi les grandes démocraties occidentales. 96 d'entre ces postes sont des consulats généraux. Le reste, c'est une catégorie à part. Je l'ai tout à l'heure mentionné, il s'agit des consuls honoraires, qui sont en général, mais pas seulement des étrangers, mais des Français, qui, dans un domaine, dans un périmètre limité d'attribution, représentent aussi les intérêts des Français et les protègent. Alors, qu'en est-il des ouvertures et des fermetures ? Eh bien, écoutez, fort heureusement, on pratique plus l'ouverture que la fermeture, notamment dans les pays émergents. Nous avons ouvert très récemment plusieurs consulats généraux en Chine, à Wuhan, où nous avons d'énormes implantations d'usines et d'entreprises françaises, à Chengdu, à Shenyang, au nord de Pékin. Nous avons ouvert récemment en Russie, à Ekaterinbourg. Nous avons réouvert, dois-je plutôt préciser, en Algérie, le consulat de France à Oran, qui avait été supprimé au début des années 90. De même d'ailleurs que nous avons assez récemment, il y a de cela moins de 10 ans, réouvert notre consulat à Annaba, en Algérie. Donc vous voyez un consulat qui vit, qui respire. Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, s'est récemment rendu en Irak. Il a été visité. Notre implantation, c'est un bureau d'ambassade pour l'instant, mais ce sera, telle est sa volonté, un consulat dans peu de temps à Erbil, au Kurdistan, où petit à petit, la France met en place un système à peu près complet de représentation consulaire. Donc vous voyez, les choses évoluent, elles vivent, elles peuvent se rationaliser, mais il est bien rare que nous fermions.
Eh bien, je vous propose de marquer une courte pause et de retrouver dans quelques minutes notre invité, Monsieur Alain Cata, directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où, jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kamps.
Madame, Monsieur, vous êtes sur Canal Académie, où nous reprenons notre émission avec Monsieur Alain Cata, directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France. Monsieur Cata, de plus en plus de Français s'expatrient à l'étranger, je crois, depuis une dizaine d'années. Pouvez-vous nous dire qui ils sont? Pourquoi acceptent-ils de prendre le risque de l'immigration? Et quelles sont, au fond, les attentes de ces nouveaux expatriés?
Eh bien, nous essayons, c'est peut-être un paradoxe, on aurait dû le faire plus tôt, de savoir qui sont ces Français qui s'en vont, qui décident de vivre durablement ou pour une période plus ou moins longue, de s'implanter hors de France. Une enquête a été menée, il y a de cela maintenant 2 ans, par la mission des Français à l'étranger, que je recommande d'ailleurs à tous nos compatriotes qui souhaitent s'expatrier. Elle est riche d'enseignements, d'informations.
Où se trouve-t-elle, à Paris?
Alors, elle se trouve à Paris, dans les locaux de la direction des Français à l'étranger, 244 boulevard Saint-Germain, Paris 7e. Bien. Une première constatation, les Français qui s'expatrient sont de plus en plus jeunes. La tranche d'âge à laquelle j'appartiens, malheureusement, des plus de 60 ans est fortement minoritaire. On ne peut que s'en réjouir parce que ce ne sont pas les plus actifs, 11-12%. En revanche, la tranche d'âge la plus importante, ce sont les 25-45 ans. Donc, ceci permet déjà de dire qu'il s'agit de cadres qui soit sont employés par une entreprise française ou étrangère qui décide en effet de les utiliser au loin, soit il s'agit de chefs d'entreprise qui décident eux-mêmes de tenter l'aventure économique à l'étranger. À cela s'ajoutent des personnels expatriés nombreux dans notre réseau scolaire. Vous savez que nous avons près de 500 établissements scolaires français à l'étranger. Donc, tout ceci fait du monde. Nous avons aussi des instituts et des centres culturels qui emploient de nombreux Français et qui font partie de l'expatriation des administrations. Ceux-là ne sont pas définitifs. Ce ne sont pas ceux qui nous intéressent le plus. Ils ne posent pas vraiment de problème. Vous avez également les communautés traditionnelles qui sont implantées de longue date, notamment en Europe. En Europe, c'est là que se situe l'essentiel des communautés françaises expatriées. Plus de 50% des quelques 2 300 000 Français qui vivent à l'étranger sont établis en Europe.
Et dans quel pays particulièrement?
Alors, écoutez, il y a là une lutte pour savoir qui de la Belgique ou de la Suisse l'emporte. D'après les statistiques officielles, c'est la Suisse. D'après les statistiques officieuses, c'est plutôt la Belgique. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a effectivement un peu plus de 200 000 Français établis en Suisse. Un peu moins ou un peu plus, tout dépend évidemment des inscriptions des uns et des autres en Belgique. Suivi par la Grande-Bretagne, vous savez que la Grande-Bretagne est un pays qui attire énormément les Français, notamment les plus jeunes d'entre eux, par l'Espagne et par l'Allemagne. L'Allemagne où nous avons 100 000 Français, ce qui est une affaire importante. Si nous faisons abstraction de l'Europe, eh bien, on retrouve évidemment les communautés françaises principalement implantées au Maghreb, en Afrique subsaharienne, puis en Amérique du Nord. Les communautés du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne sont de plus en plus, et c'est là une caractéristique très importante des communautés françaises maintenant, formées de binationaux. Donc de gens qui sont à la fois français, mais aussi titulaires de la nationalité de leur pays de résidence habituelle.
Donc cette population d'expatriés comprend de plus en plus de jeunes, sans doute aussi de femmes, plus qu'avant, peut-être.
Oui, elles sont même majoritaires. Elles sont à peu près à 51,5% de l'ensemble de la population.
Et quelles sont les attentes de ces Français qui s'expatrient et comment y répondez-vous? Comment votre réseau y répond?
Alors, d'abord, encore une fois, nous essayons de faire en sorte que l'expatriation soit bien préparée. On ne va pas vivre durablement à l'étranger sur un coup de tête. D'abord parce que ce serait complètement irresponsable, irréfléchi, et que ça risquerait de se terminer mal. Alors évidemment, nous sommes toujours là pour aider à la réintégration d'un Français qui n'aurait pas véritablement réussi à s'intégrer dans le pays qu'il a choisi. Mais au fond, c'est pour nous aussi, et aussi bien que pour le Français en question, un échec. Alors, pour éviter cela, d'abord se préparer. S'informer. Encore une fois, la Maison des Français à l'étranger est là pour répondre à un certain nombre de questions essentielles. L'état de la santé, l'état de la scolarisation, le système politique, la sécurité, le milieu dans lequel vous allez évoluer sur le plan climatique, etc., épidémiologique, etc. Toutes ces questions, nous pouvons y répondre avant même que vous quittiez Paris. Le deuxième point, c'est qu'une fois que vous êtes là-bas, il est préférable d'avoir un contrat de travail. On ne s'expatrie pas sans savoir comment on va gagner sa vie. Alors, si vous êtes cadre expatrié, pas de problème. Si vous êtes à la tête d'une... ou si vous fondez une entreprise, une PME, etc., là encore, il faut préparer son affaire. Un investissement à l'étranger se prépare. Il y a aussi des gens, notamment parmi les plus jeunes, qui tentent l'aventure culturelle. Pendant un an, deux ans, on décide d'apprendre une langue, de s'initier à une civilisation. On a constitué pour se faire un capital en France. Et on le dépense intelligemment, ce qui constitue toujours un investissement pour la suite à l'étranger. Donc vous voyez des motivations assez
très
diverses,
bien, oui.
Mais encore une fois, j'insiste sur cette nécessité de grâce, préparer votre expatriation.
Une fois bien préparé, une fois sur le terrain, donc vos consuls sont au service de ces Français expatriés. Quelles sont donc les demandes les plus fréquentes de la part de ces Français, en dehors des crises que vous avez évoquées et de l'administration, je dirais, courante, mais...
Heureusement, les crises ne sont pas aussi courantes. Mais c'est quand même le premier devoir d'un consul, c'est de savoir où sont ces gens, où aller les chercher le cas échéant, et comment organiser leur rapatriement ou leur mise à l'abri au mieux. Bon. Alors, non seulement pour répondre à cette question, mais aussi pour bien gérer tous les aspects de l'administration des Français, nous les invitons à s'inscrire au consulat. Il y a un registre mondial qui fait partie, en effet, parce que tout ceci est informatisé, d'une architecture d'ensemble qu'on appelle Racine. Racine, ça signifie dans notre jargon réseau d'administration consulaire informatisé, vous voyez.
Donc vous êtes à l'heure de l'administration électronique.
Absolument.
Au Quai d'Orsay.
Absolument.
Oui.
Nous essayons d'avoir la possibilité de concilier la proximité, la qualité, la rapidité du service rendu avec l'éloignement de nos communautés. Vous êtes par exemple consul à Los Angeles ou à San Francisco, vous avez une circonscription qui couvre de 10 à 15 États américains. Et il faut bien pouvoir toucher les Français qui sont le plus éloignés de vous et répondre à leurs attentes, quelquefois même à des attentes administratives très précises. Vous voulez renouveler un passeport, vous voulez vous inscrire sur une liste électorale. Vous voulez savoir quelles sont les protections, la protection sociale ou les formations professionnelles dont vous pouvez bénéficier. Tout ceci peut se faire en ligne, c'est-à-dire, encore une fois, par le biais de votre ordinateur. Et nous proposons maintenant, en effet, aux Français toute une série de services dématérialisés, ce qui, je crois, nous confère en matière de modernité le droit d'être satisfait. Tout ne marche pas d'entrée de jeu comme on le voudrait. Il y a toujours des problèmes d'adaptation du réseau informatique. Mais enfin, vous seriez étonné de voir comment fonctionne un grand consulat moderne. Nous n'avons pas à rougir de cette administration.
La présidence française de l'Union européenne va débuter le 1er juillet prochain pour 6 mois. N'y a-t-il pas là, pour le réseau consulaire, des opportunités à saisir? Comment allez-vous utiliser ces 6 mois de présidence française? Quelles sont les priorités de la présidence française en matière consulaire? Pouvez-vous nous éclairer?
Écoutez, 6 mois, c'est bien peu de temps. pour faire progresser des dossiers qui sont, lorsqu'on les traite à 27, des dossiers de longue haleine. D'abord parce qu'ils sont complexes, ensuite parce qu'il faut convaincre. On convainc plus difficilement 27 États qu'on ne le faisait dans les années 50 à 6. Mais enfin, on va tâcher de le faire. Et on va tâcher de le faire autour de quatre grandes priorités. La première, c'est la sécurité. Il faut que nous puissions mieux intégrer les dispositifs de sécurité des uns et des autres. À cet égard, il y a une formule qu'il faut retenir, c'est que nous avons lancé avec les Britanniques, approfondi également avec les Allemands, un concept qui est le concept d'état pilote. C'est tout simple. Lorsque, dans un État étranger, un État tiers, deux seulement des États formant l'Union européenne sont représentés et aucun autre, l'un d'entre eux peut, s'il est volontaire pour ce faire, assumer la responsabilité de la sécurité de l'ensemble des ressortissants des 27. Alors, inutile de vous dire que la France, qui dispose du plus grand réseau consulaire en Europe, est très sollicitée pour répondre à cette attente. La Grande-Bretagne a pris également ses responsabilités. Et les Allemands, qui ont un réseau pourtant moins maillé que le nôtre, l'ont fait, notamment en Asie centrale. Alors, ça veut dire que dans tous les États où nous acceptons la responsabilité d'État pilote, eh bien, nous prenons en charge tous les aspects de la sécurité de l'ensemble de nos compatriotes. Alors, pour ça, il faut encore que nous mettions au point une espèce de charte, si vous voulez, de la sécurité, des responsabilités de l'État pilote. C'est une affaire relativement complexe, mais qui est importante. Regardez ce qui s'est passé lorsque nous avons évacué nos ressortissants, mais aussi ceux de l'Union européenne présents au Tchad au mois de mars dernier. 1500 personnes, 73 nationalités. Ça nous confère un certain nombre de responsabilités. Deuxième priorité, la formation consulaire.
Donc, c'est une sorte de coopération consulaire européenne que vous mettez en place.
Oui, absolument. Oui. Absolument. Alors, puisque j'ai cité la sécurité comme étant au premier rang de nos priorités, encore faut-il que nous ayons les uns et les autres à 27, à peu près la même idée de ses responsabilités consulaires. D'où l'idée, c'est ma deuxième priorité, enfin notre deuxième priorité, de la formation consulaire. C'est assez paradoxal de constater que 50 ans après le lancement de l'Europe, nous en sommes même, 50 ans, c'est cela, eh bien, les uns et les autres, nous avons non pas nos mêmes procédures, ça, elles sont de plus en plus intégrées dans le cadre de l'Europe de Schengen, mais chacun, au fond, met en place ses procédures dans son propre réseau, selon sa propre approche. Quand vous demandez un visa, par exemple, auprès de l'ambassade d'Allemagne, du consulat général d'Allemagne à Istanbul, vous avez un certain nombre de pièces à fournir, mais qui ne sont pas les mêmes que celles que vous fournissez si vous vous adressez au guichet italien ou au guichet français. Donc, il nous faut absolument harmoniser ces procédures. Et pour ceci, mettre en place progressivement une formation consulaire commune. Le troisième point que nous allons essayer de mettre en place, mais d'autres après nous continueront, c'est la protection consulaire au sein de l'Europe. Au fond, nous voudrions, par ce truchement, contribuer à l'émergence d'une Europe citoyenne. Tout à l'heure, j'évoquais la Convention de Vienne de 1963. On ne peut pas, à l'évidence, 50 ans après l'émergence de l'Europe, considérer que cette protection consulaire doit s'exercer de la même manière en Allemagne, en France, en Italie, qu'à Khartoum ou à Timor-Est. Vous voyez, il y a là une divergence, enfin, justement, une différence d'approche qu'il nous faut maintenant mettre au point. Alors, ça a des conséquences très concrètes. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Bon. Et enfin, la quatrième priorité, vous l'avez vous-même souligné, qui a du mal à se mettre en place, mais nous allons progressivement y arriver, c'est la mutualisation de nos moyens. À l'étranger, nous considérons comme normal que, notamment tous les États de l'espace Schengen, puissent disposer des mêmes locaux, bâtir les mêmes ambassades, bâtir les mêmes consulats, avoir des personnels communs pour accueillir les publics, non seulement évidemment de l'Union européenne, mais les publics étrangers aussi pour lesquels nous travaillons. Voilà quelques-unes des pistes que nous allons tenter de suivre pour les 6 prochains mois.
Merci pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir évoqué des éléments passionnants sur un métier méconnu, celui de consul. Je pense que tous les auditeurs de Canal Academy à Paris, désireux de s'expatrier ou nous écoutant depuis l'étranger, ont appris beaucoup de choses. Et nous serons toujours heureux de vous retrouver pour une autre émission sur Canal Academy. À bientôt.